Salam alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dernier épisode de la Tay de l'année 2021. Dans cet épisode, nous allons parler Kabylie, poterie, design et business avec Hazel et Yuri, les fondateurs d'Ipki, le studio de création qui fait les magnifiques poteries que vous avez peut-être aperçues sur Instagram, dans les magazines de design ou parmi les marques mises en avant lors du market de Maison Châteaurouge à Monoprix. Hazel et Yuri se sont rencontrés à l'école et après un voyage en Algérie, en Kabylie particulièrement, dont Hazel est originaire, ils décident ensemble de monter un projet autour de ces échanges et des rencontres en fait qu'ils ont fait. Donc ils m'ont accueilli la semaine dernière dans leurs locaux à la Courneuve pour parler de leur parcours, de leurs rencontres, de leur rapport à l'identité et des joies et des difficultés de monter un projet. Et de l'importance en fait de mettre en avant son héritage culturel. Et petit bonus, une ancienne chroniqueuse de la Tay travaille en plus maintenant là-bas, donc c'est vraiment la famille. J'espère que l'épisode va vous plaire et bonne écoute. Hazel, Yuri, vous êtes les fondateurs de Ipki. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter?
Ouais. Moi, je m'appelle Hazel Aït Mokhtar. Je suis cofondateur de Ipki. Je vais un peu plus dans les détails.
Ouais.
Du coup, je suis originaire de La Courneuve. J'ai passé toute mon enfance à La Courneuve. J'ai fait un parcours en art appliqué. Du coup, j'ai étudié avec Yuri. On s'est rencontrés à l'école, en fait. J'ai étudié le design d'objets avec lui. On a fait 3 ans d'école ensemble. Et ensuite, je me suis orienté vers des cours d'ébénisterie à l'école Boulle. Et juste après, on a monté le projet Ipki.
Moi, je m'appelle Yuri. Du coup, je suis originaire du Val-de-Marne. J'ai rencontré Hazel à l'école. Et après cette formation en design, je suis parti à Strasbourg pendant 2 ans faire des études aux arts décoratifs de Strasbourg.
Du coup, ouais, vous avez dit que vous avez fait des études de design d'objets, c'est ça? Est-ce ouais. que vous pouvez un peu revenir sur cette période-là de votre vie? Comment c'était? Qu'est-ce que vous avez appris? Et pourquoi vous avez choisi ces études?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait un BTS, donc c'est assez scolaire, c'est plus théorique qu'autre chose. Et pour ma part, et je pense qu'Azel, c'est pareil, on est des personnes très manuelles. Donc moi j'avais fait une réorientation, je me suis retrouvé là un peu par hasard parce que je voulais faire quelque chose de créatif et du coup je me suis retrouvé à cette école à Paris où c'était assez difficile dans le sens où c'était comme je disais très scolaire et c'était des devoirs, enfin c'était pas vraiment ce que j'attendais de cette formation, mais après ça m'a permis de rencontrer des gens comme Hazel et de m'ouvrir un peu plus à tout ce qui est culture du design d'objets, tout ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, quoi.
Moi de mon côté, en vrai j'ai toujours été quelqu'un très attiré par tout ce qui est dessin, production artistique et tout. Je dessine depuis que je suis petit en fait. C'était un peu c'était évident, mais pas vraiment, de se tourner vers le milieu artistique. Mmh. Moi aussi, c'était une réorientation, en vrai. Je faisais... j'étais à la fac, je faisais une fac d'anglais. Et du coup, ça m'a pas plu, donc j'ai décidé de me réorienter. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, c'était une formation hyper théorique. On avait énormément de travail. Je pense que c'était un peu fait exprès pour nous endurcir, on va dire. Mmh. Il y avait des semaines où on faisait 3 nuits blanches dans la semaine pour finir nos devoirs, des trucs comme ça. Mais ce qui est bien avec ces études-là, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup acquéri en culture, en fait. Et je pense que ça, pour la création, c'est le plus important. On a fait beaucoup d'histoire du design, de culture du design et tout ce genre de choses. Et comprendre les objets iconiques et un peu savoir les identifier, c'est vachement important pour notre travail. Et ça permet aussi peut-être de trouver un peu des inspirations et une patte ensuite, savoir un peu ce qu'on a envie de faire. Mmh. Et je pense que ça, c'était le côté le plus important un peu de notre formation. Ça nous a donné aussi un peu de rigueur dans notre manière d'organiser nos idées et de monter des projets. Parce que ça peut être un peu difficile de se dire je vais créer un truc sans savoir méthodologiquement comment le faire. Et ça nous a pas mal aidé. Ouais.
Toi, Adèle, t'es d'origine algérienne.
Ouais.
Kabyle.
Ouais.
C'est quoi ton premier souvenir avec l'Algérie ?
Mon premier souvenir avec l'Algérie ? C'était mes premières vacances. En fait, nous, quand j'étais petit, on n'allait pas souvent en Algérie. La première fois que j'y suis allé, je crois, j'avais 7 ou 8 ans. Et j'ai un souvenir horrible. Genre, c'était les pires vacances de mon enfance. Parce que c'était une période un peu bizarre, on va dire. On était encore un peu dans ce moment où on savait pas trop si on pouvait bouger, sortir et tout quand on était au bled. Et en fait, je me rappelle juste d'avoir passé 2 mois à la maison à regarder Dragon Ball Z le matin et c'est tout. Mmh. Et c'était ça, en fait, nos vacances. Et ça, en fait, ça nous a pas trop fait aimer l'Algérie. C'était un mauvais souvenir, en fait. On était un peu enfermés pendant 2 mois. On allait voir la famille. Mais quand t'es petit, c'est pas trop ce que t'as envie de faire. Genre, taper 3 heures de route pour aller voir une tante que t'avais jamais vue et tu sais même pas identifier c'est qui dans l'arbre généalogique, tu vois. Du coup, c'était pas un très bon souvenir. Mm-hmm. Mais bon, après, avec le temps, ça a bien changé, donc ça, c'est cool.
Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ?
Ce qui a fait que ça a changé, c'est le fait d'y aller en tant qu'adulte, en fait. On a commencé à beaucoup plus y aller pendant mon adolescence. J'ai de bien meilleurs souvenirs sur ma période d'adolescence que sur ma période enfance, parce qu'on était quand même un peu plus indépendant, du coup on pouvait décider de bouger ou quoi. On avait des cousins qui ont commencé à grandir, donc on avait un peu plus de liberté, on va dire. Et c'est vraiment la période adulte, quand on a commencé à avoir nos permis, et que j'y allais par exemple juste avec mes frères. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à un peu plus découvrir la région et à voir qu'il y avait plein de choses à faire. Et ouais, c'était beaucoup plus cool.
Okay. Yuri, tout à l'heure, tu parlais de, après les études, de Strasbourg. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'es parti faire à Strasbourg ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps-là ?
Bah, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas trop scolaire. Et en fait, quand on a eu notre diplôme, il y avait un prof à nous avec qui on est toujours en contact qui est issu des arts déco à Strasbourg. Et moi, je voulais complètement arrêter, je voulais pas retourner en classe, continuer tout ça. Et il m'avait dit, va voir là-bas, tu sais jamais, c'est super intéressant. En fait, les arts déco, c'est un peu particulier, c'est un très grand bâtiment historique avec énormément d'ateliers. Et c'est beaucoup plus artistique que ce qu'on faisait à l'école de design. Et du coup, j'ai un peu postulé par hasard, j'ai été pris et j'ai passé 2 ans en section métal, où en fait j'étais avec 3-4 personnes et on s'est retrouvé à l'atelier métal où en fait on avait une totale liberté sur ce qu'on voulait faire. Quoi. Et c'était pour le coup que manuel, on faisait vraiment ce qu'on voulait, on avait tout à disposition et c'était vraiment cool. Quoi.
À ce moment-là, c'était quoi tes projets ? T'imaginais comment l'avenir ?
Très flou, dans le sens où Quand on était à l'école de design, les trois quarts des gens avec nous se pensaient qu'ils allaient devenir les designers du futur, alors qu'en fait la plupart se sont réorientés. Quand je suis arrivé à l'école de Strasbourg, c'était pareil, j'étais entouré de mecs qui pensaient que ça allait devenir les artistes de demain, alors que pareil, ils ont tous arrêté. Il y avait un truc de si on a vraiment envie de faire ça, il faut s'en donner les moyens et ça va être dur. C'est impossible de se dire, quand on sort avec le diplôme, de se dire ah ben demain je vais faire ça, ça va être facile quoi.
T'étais dans quel mindset quand t'étais en train de faire de l'ébénisterie?
Ouais. Dans quel mindset? Moi je savais que j'allais pas faire ça. Déjà pour commencer. Mon but premier c'était de prendre un maximum de skills dans plein de trucs différents. Du coup j'ai fait pas mal de choses différentes pendant cette année là. Et c'était vraiment d'acquérir de l'expérience pour ensuite faire d'autres choses. Du coup je me suis tourné vers le bois parce que c'était le matériau avec lequel j'avais le plus d'affinité. Genre ça m'a toujours parlé, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Mais le but vraiment c'était de comprendre comment ça marche pour ensuite moi pouvoir faire ce que j'ai envie de faire.
À l'époque tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas?
Quand pour moi disais... c'était évident en fait qu'il fallait monter un projet. Parce que trouver un travail dans le design c'est compliqué, encore plus dans le design d'objets. Je pense que, ou en tout cas, enfin, je pense que pour une personne comme moi, ça risque d'être très 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 compliqué de trouver un boulot assez rapidement.
Pourquoi?
Donc, parce qu'il y a plein d'obstacles. Déjà, des questions de profil. Je suis pas forcément le profil le plus recherché sur le marché du travail. Après, faut le dire aussi, il y a sûrement des questions de discrimination, je pense. Des questions d'expérience, de plein de choses qui font que si on veut accéder à la création en tant que travail, bah, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et pour moi, c'était un peu évident qu'il fallait monter un projet. Le truc aussi, c'est qu'on en avait déjà parlé avec Yuri quand on était à l'école et on s'était dit que on pouvait éventuellement monter un projet ensemble. C'était archi flou, on savait pas qu'on allait le faire ou quoi, c'était juste
une
idée comme ça, ouais, une éventualité. Et bon, au final, ça s'est avéré vrai. Hein.
Du coup, tu finis les arts déco, tu finis ta formation, vous êtes toujours en contact. Comment arrive Ipki en fait?
En gros, c'était un soir.
Et même avant la fin de notre formation.
Ouais, c'était avant.
Au milieu, quoi.
Ouais, on s'était vu. Je sais pas, il y avait une soirée ou un truc comme ça.
C'était en été, ouais.
Et on avait discuté. Ça faisait longtemps en plus qu'on s'était pas vu. Genre, ça devait faire un an ou un truc comme ça. Et on s'est dit, ouais, vas-y, on lance un truc. Qu'est-ce qu'on fait et tout.
Non, et... en vrai, c'était même pas ça. C'est toi qui avais dit, je vais partir en Algérie, viens, on va en Algérie. Il y avait un truc comme ça. Parce qu'au début, on voulait pas, enfin, on savait même pas si on voulait lancer un. Enfin,
ouais, non, c'est vrai, c'est vrai.
À la base, c'était vraiment genre des vacances.
Ouais, non, c'est vrai que c'était pas un projet réellement. Ouais, non, c'est vrai que c'était pas un projet réellement. C'était. Ouais. En gros, je partais en Algérie, c'était l'été en plus.
Ouais.
C'était au mois d'août. Et j'ai dit à Yuri de venir avec moi. Et en fait, à la base, c'était juste pour voir, pour visiter. Et du coup, on est allé chez ma famille. On a passé 2 mois là-bas, je crois.
Non, 1 mois la première fois.
Ouais, un truc comme ça.
C'était 1 mois. Bah, moi, j'avais mon visa d'1 mois, de toute façon.
Ouais, bah oui, voilà. Ouais, il a pas prolongé. Du coup, ouais, un mois en Algérie. On était chez ma famille. Et on avait bougé dans la région. Et en fait, sur ce mois... mon père qui nous a présenté à un pote à lui qui en gros c'est grave un intellectuel qui est très fier du terroir kabyle et qui du coup connaît très bien la région et pour lui en fait c'est un plaisir de montrer les choses de tout ce qui se fait et tout Donc en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a pris dans sa voiture et il a dit, vas-y, on va faire un tour. Et en fait, on a passé, je crois, 2 ou 3 jours à faire le tour de la Kabylie. On est allé presque partout. Et en fait, il savait qu'on était designer parce que, bah, du coup, mon père lui avait parlé et tout. Donc il avait un petit peu ciblé les endroits où on allait. Il nous avait montré des artisans, des trucs comme ça, tu vois, des gens qui fabriquaient des choses et tout. Et bah ça, je pense qu'il y a une petite étincelle qui s'est créée. On a commencé à se dire que ouais, il y avait des choses à faire. Je pense que c'est un peu le point de départ de tout, en fait.
Toi, t'as pensé quoi de ce mois en Algérie ? Est-ce que t'étais déjà familier, du coup, avec...
Pas du tout. En fait, déjà... Enfin non, c'était une région du monde où enfin, j'avais pas forcément d'attache, donc forcément j'étais pas trop intéressé à ce qui se passait là-bas. Je savais que c'était pas aussi simple que le Maroc ou les pays comme ça où il y a...
Plus touristique.
Où, voilà, où des gens te disent tiens je suis allé au Maroc cet été, machin. Ouais. À part les gens d'origine algérienne que je connaisse qui te racontent qu'ils sont allés voir de la famille... c'était assez flou pour moi et j'avoue je savais pas trop à quoi m'attendre. Et du coup moi je me souviens surtout quand on a décidé d'y aller et que j'avais fait la demande de visa et que ça allait être fait, qu'on allait partir, j'en parlais autour de moi et ils étaient tous à me dire mais qu'est-ce que tu vas faire en Algérie et tout ça. Et c'est vrai que du coup les gens m'ont un peu mentalisé, j'avais une attente de l'Algérie, genre même mes potes algériens, ils me disaient « Mais il n'y a rien à faire là-bas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Et au final, je me suis rendu compte que c'était surtout les Algériens qui sont en France depuis qu'ils sont tout petits et qui vont très rarement et tout ça, qui ont tous des mauvais souvenirs dans le sens ils sont pas trop chauds d'y retourner parce qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien qui les intéresse sur place à part voir de la famille. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, du coup, j'étais assez surpris parce que bah déjà, les gens étaient ultra cool avec moi. Mais que ce soit des gens de la famille d'Azel, un mec, un épicier, un gars qui fait le café, ils tous ultra curieux de savoir qu'est-ce que tu fais là, c'est cool, machin. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir l'ami du père d'Azel qui nous a tout fait découvrir. Parce que la première personne qui nous a dit, qui a passé une journée avec nous, qui nous a emmené voir des trucs, c'était à Alger, et lui avait pas du tout compris le concept, et du coup il nous a emmené aller voir des centres commerciaux, des boutiques, des trucs comme ça. On était là à se dire waouh, comment c'est trop nul et tout. Et du coup après quand on a bougé d'Alger et qu'on est allé plus vers Tizi Ouzou, donc la région de sa famille et tout ça, on a là c'était beaucoup plus intéressant parce que c'était déjà plus isolé.
Ouais.
Donc moins de
urbanisé.
Ouais, voilà, et puis même c'est beaucoup plus simple dans le sens où c'est pas des quartiers avec des buildings partout où ça bouge et t'es un peu perdu, tu sais pas trop quoi faire. Et on a eu la chance du coup d'avoir cet ami qui nous a pour le coup fait un tour magnifique avec autant des paysages que des artisans, que des... Donc c'est passé très vite. On a passé beaucoup de temps en voiture. C'était un peu difficile. Il y avait tellement de trucs à voir que dès qu'on arrivait sur un truc intéressant, on pouvait rester que 10 minutes. Donc ça avait ses côtés positifs et négatifs. En tout cas, ça donnait envie de revenir pour passer plus de temps. Et déjà, moi qui n'étais jamais allé en Algérie, parce que Azel était allé quelques fois déjà, moi qui n'étais jamais allé, ça m'a juste mis une claque parce que en fait, le matin, t'étais à la mer, l'après-midi, t'étais en haut de la montagne, t'avais trop de trucs. Et c'était carrément nouveau pour moi. Mmh. Et ce qui était cool, c'était aussi au niveau de la communication. Parce que y a quand même beaucoup de gens qui parlent français, plus ou moins bien. Mais en tout cas, pour se faire comprendre, c'est super simple. Et du coup, il n'y avait pas de barrière vraiment de langage ou de trucs comme ça.
C'est vrai.
Donc quand tu tombes avec des gens qui n'ont qu'une seule envie, c'est de discuter pendant 3 heures avec toi, c'est cool.
De fou. Du coup... Ipti arrive à quel moment à Pendant le voyage, après le voyage?
Je pense après le voyage.
Mmh. Genre, vous rentrez en France,
ouais.
Vous vous dites là, c'était une dinguerie, genre on fait ça.
Ouais, c'est ça, c'était le... Il fallait un peu digérer tout ce qu'on a vu,
mmh.
Et mettre un peu les choses en forme. Le truc, c'est que... Il n'y avait pas réellement... Enfin, l'essence de la marque, du projet et tout, c'était pas encore en place.
Mmh.
On savait juste que... On avait envie d'y retourner, de revoir des gens qu'on avait vus, éventuellement de travailler ensemble, et que... En fait, notre but, c'était de partager quelque chose avec eux, d'échanger, de créer des choses. Et en gros, on avait deux contacts là-bas... Non, un contact là-bas, qui était grave chaud pour bosser avec nous, parce qu'on avait bien discuté et tout. C'est du coup Nabil, avec qui on travaille jusqu'à maintenant. Et en fait, on était grave restés en contact sur Messenger, et je pense qu'à chaque fois, il arrêtait pas de nous demander quand est-ce que vous revenez, quand est-ce que vous revenez. Et du coup, en gros, on est revenu le novembre d'après. Genre 2 mois plus tard, on était de retour en Algérie. Je crois qu'on a commencé à travailler directement. On a dû laisser passer genre 2-3 jours et on est allé bosser avec lui. Nabil, c'est un artisan potier. Lui, il est spécialisé dans le tournage de céramique, donc il travaille sur un tour. Et en gros, le travail qu'il fait maintenant avec nous, c'est que c'est lui qui fait les corps des objets qu'on fabrique. En gros, lui, il fait la base sur laquelle nous, ensuite, on vient ajouter des anses et sur laquelle, ensuite, on vient faire de la couleur. En gros, c'est comme ça qu'on se sépare le travail avec lui. En fait, c'est un fonctionnement qu'on a trouvé... un peu tard dans notre évolution. À la base, on ne pensait pas du tout travailler comme ça, on savait pas trop comment on voulait travailler. On s'interrogeait beaucoup sur le process. Comment faire qu'on ressorte ce qu'on a envie de ressortir, enfin que les gens comprennent un peu notre vision des choses. Et en même temps, on voulait pas être une énième marque qui travaille avec des artisans juste et qui ramène des choses en France, enfin comme ça se fait beaucoup par exemple au Maroc ou en Tunisie où t'as juste des gens qui viennent, ils achètent un truc, ils le reprennent et ils le revendent. On voulait pas être ça. On voulait pas juste arriver, dire à l'artisan ouais c'est bien ce que tu fais le moi en jaune et je le reprends et je le vends en France. Donc je pense que ça c'était notre base de réflexion, comment faire pour plutôt que d'être juste un commanditaire qui va acheter des objets, les prendre, les ramener en France.
Ouais, d'avoir sa part dans le process.
Voilà, avoir notre part dans notre process, faire un truc plus vivant et faire en sorte que... En fait, il n'y ait pas une hiérarchie verticale.
Mm.
Dans le sens où nous, on est au-dessus, on paye, et toi, tu fais juste ce qu'on te dit et tu parles pas. Et ça s'est construit au fil du temps. En fait... C'est une histoire archi compliquée, on va dire, parce qu'il y a plein de choses qui sont entrées en jeu et qui ont fait que le projet est ce qu'il est aujourd'hui. Mais je pense que ouais, la base, c'est notre envie d'avoir un processus de création qui soit assez sain et qui fasse qu'il n'y ait pas de relation de subordination ou de dépendance avec les gens avec qui on travaille. Nous, on voulait mettre la main à la pâte, on voulait travailler parce que c'est un peu le cœur de ce qu'on fait. On aime travailler sur nos objets et faire que ce soit nos objets. Et après, il y a l'aspect technique qui nous a un peu tiré vers cette manière de travailler. Parce que je pense qu'en fait, le projet, il est né des difficultés qu'on a rencontrées, en fait, sur le processus de création. Il y a plein de choses qui sont arrivées qui ont fait que, pour résoudre certains problèmes, il fallait qu'on se mette dessus pour trouver des solutions. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la céramique, c'est un matériau qui est... Enfin, il y a plein de règles dans la céramique. Et il y a trop de choses qu'il faut faire d'une certaine manière. Et si tu le fais pas de cette manière, c'est mort. Et du coup, ben, pour trouver les bons procédés et faire en sorte que ça fonctionne, on devait faire énormément de recherches. Et ensuite, on en est venu même à créer nos propres procédés de fabrication. Et du coup, ben, c'est une partie qui est hyper personnelle et qu'on garde pour nous, quoi. C'est notre truc. C'est notre patte, en fait.
Mmh. Du coup, en fait, le choix de la céramique, il s'est imposé de par la rencontre avec Nabil, c'est ça ?
Mmh. Bah, c'est un des artisans qu'on a rencontré où ça a tout de suite matché en 10 minutes de conversation.
Mmh.
Comme Azel te disait, en fait, on a décidé de retourner en Algérie pour travailler. Il n'y avait rien qui était... Enfin, dans nos têtes, on pensait à plein de trucs. Mais il n'y avait pas d'histoire de marque. On ne savait pas quels objets on allait faire, combien on allait en faire, comment on allait travailler. Du coup, en fait, là où ça a été plus simple de travailler avec Nabil, c'est que c'est quelqu'un qui était plutôt de notre génération, assez jeune, et qui n'avait pas peur, en fait, de travailler avec nous et d'aller dans l'inconnu. Parce que c'est vrai qu'on a rencontré pas mal d'artisans qui déjà voulaient pas nous montrer leur atelier. Nabil, on l'a rencontré directement à son atelier, donc c'était direct. Voilà, nous on fait ça comme ça, il n'y avait pas de trucs bizarres. Donc déjà, ça nous a un peu rassurés et en fait, on savait vers où on allait.
Après, je pense que je pourrais comprendre en soi
bien sûr,
le fait de ne pas montrer son atelier, sûr. Tu vois, quand tu vois aujourd'hui des histoires d'appropriation culturelle, de designers qui sont volés.
Ouais, grave.
Non, c'est sûr. Mais du coup, on n'avait pas non plus 40 contacts. Mm. Et après dire, en fait, on a commencé par la céramique, mais dans nos têtes, on ne se disait pas, avant de partir en Algérie, on va faire de la céramique, et on va machin. Donc en fait, on s'est un peu lancé dedans naïvement en se disant que ça pouvait être cool. Et c'était cool, mais ça a pris plus de temps que prévu. Dans le sens où à la base, on pensait partir un mois, deux mois, avancer sur le projet. Et au final, on est resté 9 mois. Et ces 9 mois qui ont été très enrichissants, parce que c'est ce qui a permis de nous construire, de nous faire l'identité de la marque. Sans vraiment qu'on y pense, on se disait pas, nous on va faire ça comme ça, parce que ça va être stylé de faire ça comme ça. C'est juste que en fait, au niveau de temporalité, on a tout ralenti, parce que tout prenait du temps. Et nous au début, on était là avec des dessins à faire, ouais c'est cool, on va faire ça et tout. Alors qu'en fait, c'était pas du tout la bonne approche, et ça nous a permis de naturellement faire les choses et de venir là où on en est aujourd'hui. Mais du coup c'était très compliqué. Même après les 9 mois, il y avait plein de choses qu'on n'avait pas mis. Enfin, je sais même plus si on avait une idée de nom de marque. Je sais même plus. C'était plus un workshop de 9 mois où genre on a acquéri plus de connaissances, fait des rencontres. On sentait qu'il y avait une alchimie avec l'artisan, où en fait tout s'emboîtait de façon naturelle, donc c'était cool. Mais c'est vrai que quand il y a des gens qui nous demandent, ouais, j'aimerais bien faire quelque chose de similaire, travailler avec des artisans et tout ça, des fois ils se rendent pas compte qu'en fait nous c'était vraiment, on a bloqué notre vie pendant ce laps de temps où genre on faisait que ça.
Ouais, c'est des process qui sont hyper longs.
Et en vrai c'était ultra fatigant parce que c'était pas, on prenait le métro et on était à 20 minutes de l'atelier, c'était, on se levait à 6h, on faisait 1h30 de route dans les montagnes, on arrivait sur place, on travaillait. C'est un environnement qui est assez difficile parce que c'est à moitié en plein air, c'est très poussiéreux, t'es constamment recouvert de terre. Donc c'est quand tu fais ça pendant 8 mois tous les jours, c'est fatigant, tu vois. Et puis forcément t'as des moments où ça marche mieux que d'autres, donc et surtout je pense ce qui était difficile, c'était le côté où on savait pas trop où on allait. Donc on avançait, on sentait que ça évoluait, mais tu te dis, ça se trouve je fais ça pour rien. De ce côté t'as tes amis, ta famille qui sont là, déjà qu'est-ce que tu vas faire en Algérie de base, et après qui te disent c'est bon, tu reviens un jour, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, et toi tu sais pas trop quoi leur dire, tu leur dis juste ouais ça avance, on est en train de faire nos trucs et tout, donc c'est cool.
Et pourquoi ce nom, c'est quoi la vision de la marque
Ipki? C'est un peu tombé par hasard.
Ouais.
À la base, Ifki, c'est un singe, mais c'est plus un V qu'un B. On a un peu modifié la prononciation.
Ça veut dire singe?
C'est un petit singe, ouais, en kabyle. Pourquoi un petit singe?
C'est moi, au début, je pensais que Ipki, c'était... Parce que Ipki, c'est pleurer en arabe aussi.
Non, c'était pas ça. Mais en vrai, le nom, c'est un truc qu'on garde un peu pour nous.
Mm-hmm.
Enfin, c'était un truc qu'on dit pas comme ça. Genre, on a choisi le singe parce que c'était un peu notre emblème, on va dire. En gros, on a fait un parallèle trop chelou et archi élaboré, mais bref, ça nous parle, donc c'est bien. Mm-hmm. En gros, j'ai le souvenir, on était parti une après-midi à Yakuren pour voir les singes, parce que c'est une forêt qui est connue pour ça, il y a plein de singes là-bas, et ouais, c'est un peu un endroit touristique dans la région. En fait, on avait juste passé toute notre journée à chercher des singes, et ça a servi à rien, parce qu'au final, on en a vu genre un à la toute fin de journée, on était trop contents, mais au final, on a passé notre temps à chercher, quoi. Et on a grave fait le parallèle avec notre travail sur cette journée. Parce qu'au final, on avait passé 8 ou 9 mois à chercher, sans savoir ce qu'on cherchait. Au final, on pensait qu'on avait trouvé, quoi. C'est ce parallèle-là, le fait... peut-être ne pas oublier que... On a grave bossé pour trouver notre travail et ce qu'on veut faire. Et ouais, du coup, ça nous sert de rappel.
C'est pas mal comme rappel. Et plus sur la vision de la marque, c'était quoi votre vision de base? Qu'est-ce que vous vouliez... Tout à l'heure, tu vois, tu parlais de raconter une histoire. C'est quoi l'histoire que vous voulez raconter avec ça?
Moi, déjà, je pense que ce qui me tenait à cœur... Vraiment, c'était de challenger un peu la manière de travailler avec nos pays d'origine, on va dire. Dans le sens sortir de ce délire de une marque arrive, elle se sert. Ok, il y a une relation commerciale, elle paye très bien. Mais déjà, elle paye pas forcément bien. Et en plus, elle va profiter d'un savoir-faire sans lui donner sa juste valeur, en fait. On va juste voir, ouais, fabriqué au Maroc, fabriqué en Tunisie, fabriqué en Algérie. Bon, très peu fabriqué en Algérie, mais quand même. Et en gros, la marque va prendre tous les crédits sans rien donner à l'artisan, sans rien expliquer. Et nous, en fait, on voulait absolument sortir de ça. Comme je disais tout à l'heure, on voulait pas être ceux qui donnent juste un dessin, prennent leurs objets et se barrent. Et ça a été grave central dans la construction de la marque. Ce truc de on veut trouver une autre façon de faire. Trouver un truc qui fasse que on donne la juste valeur au travail, qu'on fasse que le procédé soit plus sain. Et du coup, c'est ça qui a fait que nous, on s'est intégré au processus de fabrication. Et ça, en fait, ça nous permet de déjà créer des liens plus forts avec les gens avec qui on travaille. Parce que par exemple, Nabil, je le dis à chaque fois, mais pour moi, c'est mon cousin du bled, en fait. Je le vois plus que ma famille. Quand on va là-bas, je passe 2 jours chez ma famille, et ensuite, on est à l'atelier tous les jours. En gros, je le vois plus que ma famille, réellement. du coup, ouais, le fait de bosser ensemble tout le temps et tout, maintenant, c'est un ami proche. On se connaît super bien, on sait chacun comment on fonctionne, et on a confiance les uns... Enfin, on a confiance... Tout le monde a confiance avec les autres. Ouais, c'est une relation qu'on voulait construire, en fait. Et ça, en fait, ça fait que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans une mécanique de dépendance ou quoi. On est presque dans une hiérarchie horizontale, on va dire. Et ça change plein de choses.
C'est qui les gens qui achètent Ipki?
Ça, c'est grave une bonne question. Les gens qui achètent Ipki, il y a un peu de tout, en fait. C'est ça qui est cool aussi, c'est que on peut autant attirer des jeunes comme nous qui sont pas forcément super riches ou pas forcément très calés dans le design ou quoi. Bon, après, je dis pas qu'on est pas calés dans le design. Voilà. Que des gens archi pointus qui kiffent les beaux objets et qui vont avoir un coup de cœur sur ce qu'on fait. Que, je sais pas, des archis d'intérieur... des gens qui vont placer nos objets. En gros, ouais, c'est hyper éclectique. Les gens qu'on touche, Il y a plein de mondes différents. Ça, c'est assez cool.
Récemment, il y a eu la collab avec Maison Château Rouge aussi. Et l'exposition, l'exposition au MAD, c'est ça, c'était au Musée,
ouais,
des Arts
au Musée
Déco.
Des Arts Déco, ouais.
Comment ce projet il s'est monté? C'est Youssouf qui vous a appelé? Comment ça s'est passé?
En fait, ce projet il s'est monté. À la base, Youssouf, je lui ai envoyé un DM. Et ça s'est, ça s'est passé comme ça. Je crois qu'il avait posté une photo d'un vase sur Insta. Ouais. Et moi, je lui ai dit... si tu cherches des vases, viens nous voir, on fait de la qualité. Mm-hmm. Et du coup, il est venu nous voir. Aussi simplement que ça. Et ouais, du coup, ça s'est monté comme ça. Ça, c'était un DM de l'espace et ça s'est transformé en collab, même en amitié maintenant. On est... Genre, on est grave cool et tout. Et
Oui, parce qu'en soi, genre, je pense que votre démarche aussi, vos deux démarches, elles se rapprochent beaucoup.
Grave.
Avec vos histoires respectives et avec vos expériences respectives, donc en vrai ça coule de source aussi.
Ouais, grave. Ouais, on a des projets qui se parlent énormément, on a des engagements aussi qui se correspondent. Je pense qu'on a une vision qui est vachement proche des choses. Et du coup, ben, c'est aussi hyper intéressant de faire en sorte qu'il y ait un environnement de marque qui ont ces valeurs-là. Et je pense que Youssouf, c'est aussi un peu son projet de valoriser des marques qui ont presque le même projet, ou du moins qui ont les mêmes visions.
Ouais, d'aller
dans le même sens. Ouais.
Récemment, vous avez fait un tapis aussi pour la couverture d'un magazine.
Ouais.
À la base, c'était pas pour la couverture du magazine. C'est en fait c'est une galerie,
ouais,
à Paris.
Je l'avais vu,
ouais, ouais. Non, c'est une galerie qui s'appelle Chevalier Parsua sur Paris, qui fêtait ses 20 ans. Donc du coup, c'est une galerie spécialisée dans la tapisserie et le tapis. Ils travaillent en Iran et ils font ils travaillent avec des artisans qui font des nœuds. Et donc c'est un travail très long qui est très difficile. Et en fait, ils fêtaient les 20 ans et ils ont demandé à 10 designers de reprendre un de leurs tapis iconiques et de faire une version revisitée, et de faire une carte blanche où on faisait ce qu'on voulait sur un format de tapis. Et alors du coup, nous, ça nous a grave parlé. Déjà, on était en pleine production en Algérie quand on a reçu cette demande, et en fait, on s'est dit que c'était carrément de notre... ça aurait été pas la même chose si quelqu'un d'autre de lambda nous disait voilà, j'ai besoin de dessiner un tapis. Là, ça nous parlait parce que c'est très quali, et en plus parce que on se sentait un peu honoré aussi d'avoir été sélectionné parmi... Enfin, il n'y avait que des mecs qui avaient reçu des prix, des trucs comme ça.
Des CV de ouf.
Et nous, on était là, ah salut, vas-y, ça marche, on va le faire. Non, mais c'était super cool parce que du coup, en fait, en termes de créativité, ça matchait de ouf. Nous, on était en pleine production de la deuxième collection, donc on était grave dans l'effervescence créative, des formes, des couleurs, des trucs, et du coup, c'était assez particulier parce que nous, on a l'habitude de travailler en 3D avec la matière directement, et là, c'était plus du dessin aplati en 2D, donc c'est un truc qu'on n'avait jamais fait, mais c'était un challenge grave cool à faire, quoi.
Est-ce que ça vous a donné envie, genre, de diversifier un peu Ipki et de sortir de la céramique, d'essayer d'autres matériaux, d'autres...
Le truc, comme je te disais tout à l'heure, sur le fait qu'on n'est pas arrivé sur la céramique parce que c'est la première chose qui nous tombait sous la dent, en vrai de vrai, les gens nous prennent pour des geeks de céramique, mais en vrai, depuis le début, on a envie de faire plein de trucs différents. Et c'est vrai qu'on a commencé par la céramique et on est encore grave dedans parce qu'il y a trop de trucs à faire et qu'on kiffe ça. Mais on tend à faire carrément plein de trucs, quoi. Alors on a des idées pas vraiment précises. On sait qu'on aimerait bien faire ça. Mais pour le moment, ça va être comme on a fait avec la céramique, c'est-à-dire qu'on va expérimenter. Essayer des matières, des formes, le bois, le métal, peut-être même faire d'autres choses en céramique autres que des vases et de la vaisselle, mais ça va venir, en tout cas.
on va plus revenir sur l'entrepreneuriat. C'est comment d'entreprendre en Algérie ? Parce que j'ai plein de potes qui, eux, par contre, ont grandi là-bas et tout, et je sais que c'est pas forcément le pays le plus simple pour ce genre de projet. Après, c'est différent parce que nous, on est d'ici, on a grandi ici, donc c'est une autre vision et une autre porte d'entrée, on va dire. Mais est-ce que vous avez eu des difficultés ? Est-ce qu'au contraire, ça s'est fait très facilement ? Est-ce que le fait, justement, d'être à moitié entre la France et l'Algérie, ça facilite aussi beaucoup les choses ? Mais commencer d'entreprendre dans son pays d'origine, en l'occurrence en Algérie ?
Je pense que déjà, le fait de venir de France, ça nous facilite énormément les choses. Mmh. On est ultra privilégiés sur ça. Parce que on a plus de moyens, parce que plein de choses. Du coup, déjà, faut avoir ça en tête. On est ultra privilégiés quand on investit en Algérie. Enfin, du moins, quand on entreprend en Algérie. La difficulté, je pense, c'est les gens le savent, genre ça fait peur à tout le monde, c'est le côté administratif. Mm. C'est vrai qu'en Algérie, c'est un peu compliqué administrativement de bien faire les choses. Genre, on va dire qu'il y a beaucoup de lourdeurs administratives qui sont difficiles à expliquer. Mm-hmm. Mais je pense que ça vient aussi du fait que c'est un ancien système qui a été réadapté. Genre, il y a beaucoup de vestiges de la présence française dans les lois et tout, dans l'administration. Et du coup, ça a été modifié au fil du temps. Et t'as plein de choses où c'est parfois complètement bizarre, en fait. Genre, tu dois remplir des formulaires que tu dois donner à tel bureau, que tu dois ensuite reprendre et redonner au même bureau, et des trucs comme ça. Et en gros, tu fais grave des allers-retours et tout. Mais c'est pas impossible. Genre, moi, je sais que quand je parlais à ma famille d'entreprendre là-bas et de faire des choses et tout, ils me disaient, ouais, c'est impossible, tu vas jamais rien faire... c'est pas le pays pour rien n'est fait pour que tu puisses travailler et tout. Et en fait, en le faisant réellement, je me suis rendu compte que c'était pas aussi dur qu'on me le disait. Faut toujours garder en tête le fait qu'on est privilégié, mais malgré tout, ça reste faisable. Il faut à certains moments grave forcer. Genre nous, on a eu des épisodes genre par exemple avec la douane, où on a dû faire nos recherches nous-mêmes. Genre on devait ouvrir les textes, chercher l'information, et ensuite aller voir l'opérateur de douane et lui dire « Ouais, c'est comme ça, c'est écrit.
» Et même pour le transport de marchandises, ce genre de choses.
En vrai, c'est plus de l'inconnu que de la difficulté.
Ouais, c'est vrai que c'est plus de l'inconnu que de la difficulté. En mode, tu vas souvent être face à des gens qui ne sauront pas t'apporter de réponse, ou du moins qui vont t'apporter des réponses erronées. Et le truc, c'est qu'il faut... être grave débrouillard et chercher l'information soi-même. Nous, quand on était dans les trucs de douane où on commençait à chercher comment ramener les trucs et tout, je pense qu'on a passé peut-être des semaines à chercher des informations, à appeler les services de douane. On a appelé jusqu'au ministère pour trouver des informations. Mmh. Et le truc, c'est que parfois les gens sont pas très. Enfin, ils ont pas envie de se faire appeler en fait. Mmh. Genre, t'appelles au ministère, ils vont te dire mais pourquoi tu m'appelles ? Mmh. Genre, j'ai d'autres choses à faire, tu dois chercher une vieille information pour envoyer deux palettes en France, débrouille-toi, tu vois. Mais ça reste faisable. Il y a une grosse peur, je pense, qu'ont les gens, c'est l'histoire du transport, ouais. L'histoire du transport. En fait, on a cette idée reçue que. Il n'y a aucune exportation qui se fait depuis l'Algérie et que du coup c'est un truc qui n'existe pas et donc ça, c'est trop mal fait et si par exemple on envoie des vases, ils vont faire ça n'importe comment, ils vont les jeter par terre et tu vas jamais les recevoir. C'est faux. C'est totalement faux. Le système il fonctionne. Nous, ce qu'on nous a surtout dit, c'est ouais, il y a de la corruption, si tu veux que ta marchandise elle passe, tu vas devoir payer. C'est faux. Je pense que ça peut être vrai à certains moments. Il peut y avoir des situations où ça arrive et du coup il faut faire un truc. Mais nous, retour d'expérience, c'est totalement faux. Okay. On réussit à travailler sans être confronté à tout ça.
Là, bah, tant mieux.
Ouais.
Et est-ce que justement le fait, toute cette aventure Ipki, est-ce que ça a changé ta vision, ton regard, on va dire, sur ta double identité?
Ouais, grave.
Parce
beaucoup.
Que j'imagine que ça a dû impacter.
Ouais, non, beaucoup. J'étais beaucoup moins proche de l'Algérie avant. Genre, j'en parlais avec Yuri la dernière fois, mais moi je connaissais l'Algérie jaune, genre l'Algérie de l'été, tu vois, avec les champs de blé jaune et les collines jaunes et tout. Je connaissais pas l'Algérie verte avec les forêts et tout. Et du coup, bah,
l'Algérie
ça m'a.
L'Algérie blanche aussi, du
L'Algérie
coup.
blanche aussi, ouais, ça on l'a vu. Et c'est une dimension tellement différente, en fait, de connaître le pays de cette manière, de venir pour autre chose que voir la famille, de prendre le temps d'explorer, de voir les choses et tout. Et ça m'a énormément rapproché, en fait, de mon pays, au final. Et par exemple, pour le délire des idées reçues, de ce que les gens disent et tout, bah, au final, je me suis rendu compte que il faut se faire un avis soi-même. Si je peux donner un conseil à qui que ce soit, c'est il faut pas écouter ce que tel tata a dit, ou tel tonton, ou tel pote, ou je ne sais qui. Faut y aller directement, hein, c'est plus simple. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, enfin, je sais pas si c'est une tendance ou quoi, mais on a beaucoup tendance à dénigrer un peu le pays en disant que genre c'est mal fait, c'est pas bien, c'est je sais pas quoi, y a rien à faire et tout.
Souvent en répétant les discours qu'on a déjà entendus, en fait.
C'est ça en fait. Le truc c'est que ça prend de l'ampleur à chaque fois et limite on y croit, quoi.
Ça, et puis en plus il y a le côté où des fois c'est vrai sur certaines choses qui sont dites, mais ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a des gens qui sont sur place, qui vivent ça tous les jours et qui arrivent à faire des trucs extraordinaires avec ça, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que il y en a, ils sont conscients des difficultés et ils font tout pour y arriver. Et du coup, quand tu vois des mecs de notre génération qui travaillent alors qu'ils ont plein de bâtons dans les roues sur certains trucs, tu te dis, ah ouais, en fait, ça te fait relativiser sur plein de choses. Tu te dis, putain, ces mecs-là, ils arrivent aussi à faire des trucs. Ils sont grave déter et ils sont grave. Ça te donne aussi un peu de force quand toi t'arrives et que tu te retrouves face à des problèmes ou des complications.
Les futurs projets, on va parler de la nouvelle collection qui sort la semaine prochaine, du coup. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus dessus?
Ouais. En gros, c'est une collection de fin d'année qu'on va sortir là. Et en fait, sur cette collection, on a voulu grave se centrer sur le process, en fait, de fabrication. Ça fait partie de nos collections Covid. Nos collections Covid, en fait, c'est des objets où on fait la première partie de la fabrication en Algérie. Là, on était parti en septembre dernier. On cuit l'objet en terre cuite et on le ramène en France sans couleur. Et en fait, on fait la couleur ici en France.
Justement, puisque pendant le Covid, les frontières étaient fermées,
c'est très compliqué, ouais.
Super compliqué, même.
Et c'est difficile de rester longtemps là-bas parce que il y a toujours le spectre de je vais pas trouver de vol, je vais pas, les frontières vont être fermées ou un truc du genre. Et
là-bas, quand les frontières ferment, elles ferment pour de vrai.
C'est ça le problème, c'est le plus gros problème.
C'est pas comme les frontières qui ferment et puis tu sais, les gens ils continuent à partir, à revenir.
Y a pas de petit trou de souris pour rentrer ou quoi, y a pas de solution. Tu peux faire ce que tu veux, c'est mort. Et du coup, bah ouais, cette collection elle s'inscrit dans ce mode de travail-là. Et en gros, là, le but c'était de se focaliser sur notre manière de travailler. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on fait des émaillages, on fait énormément de tests.
Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi l'émaillage ?
L'émaillage, c'est lorsqu'on pose de la couleur sur un objet en céramique. L'émail, c'est un... Comment dire ? Ça s'apparente au verre, en fait. Il y a de la silice dedans. La silice, c'est la base du sable, en fait. Lorsqu'elle entre en fusion, ça se cristallise et ça devient un peu comme du verre. Et en gros, nous, on appose des couches de couleurs. Notre travail, en fait, il consiste à émailler les objets plusieurs fois. En gros, on pose plein de couches de couleurs qui vont jouer entre elles, parce qu'en gros, il faut savoir qu'il y a des émaux qui aiment beaucoup bouger sur l'objet lorsqu'on les cuit, d'autres qui aiment pas trop bouger, il y en a certains qui sont brillants, d'autres non, etc. Et en gros, nous, on les confronte, on fait en sorte qu'ils réagissent entre eux pour avoir un rendu avec beaucoup d'effet, de la profondeur et tout. Et ouais, comme je disais, on fait énormément de tests. En gros, on fait plein de tests de superposition, de recettes, de trucs, où on va, je sais pas, par exemple, on va créer une couleur, un bleu, imaginons, on va essayer de mettre du orange dessus, voir ce que ça donne, on va essayer de mettre trois couches les unes sur les autres, etc. Et en gros, là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment se focaliser sur ce truc-là d'expérimentation. Et plutôt que de faire des tests, et une fois que le test est bon, on le met sur un objet, là, on s'est dit, on va prendre une quantité d'objets, chaque objet, ce sera un test, et on va le pousser au maximum jusqu'à ce que ce soit une pièce vraiment unique et qu'on soit vraiment satisfait de l'apparence qu'elle a. Et du coup, en gros, là, cette collection, ce sera que des pièces uniques, toutes sur lesquelles on aura expérimenté, et ce sera des couleurs qui seront toutes nouvelles, quoi.
On va faire une pause dans l'émission, on va écouter un son du chanteur Alpha Blondy que j'ai découvert la semaine dernière au pif dans une playlist en aléatoire. C'est un chanteur de reggae ivoirien. Il est notamment connu parce qu'il a été nommé ambassadeur des Nations Unies pour la paix en Côte d'Ivoire. On écoute Seba Alaye sur la taille.
Mogo be, sogo be, jine ufane ubanche.
Les recommandations. Alors, je vais commencer comme d'habitude. Moi, ma recommandation, c'est un projet qui... On peut faire le parallèle en soi avec Ipiki. C'est Atelier Indépendant. Donc, c'est une bijouterie qui met en avant, en fait, les premières pièces émises par les peuples d'Afrique du Nord. Donc, c'est des gravures, en fait, sur les pièces, les anciennes pièces. Donc, il y a... Maroc, Algérie, Tunisie. Il me semble qu'ils ont aussi maintenant fait des collections avec des timbres, des tableaux avec des timbres, et donc on peut les retrouver en bijoux. Il y a des colliers, des bagues. Il me semble qu'ils font des ceintures aussi, mais je ne suis pas très sûre. Et voilà, je trouve que c'est une belle façon en fait d'utiliser cet héritage-là et pour en faire ces bijoux-là, parce que je sais que moi, les pièces d'or, en tout cas, quand j'étais petite, c'était les ceintures de mes mamans et de mes tantes, où en gros on a des sortes de ceintures traditionnelles avec plein de pièces d'or, et je trouve ça cool en fait de revisiter ça et d'en créer des bijoux un peu plus modernes, on va dire. Donc voilà, Atelier Indépendant, on mettra de toute façon toutes les infos dans la description. Yuri.
Alors moi, je vais parler de mon gars Émile Fofana Samori, qui est un artiste multidisciplinaire qui fait aussi bien de la photo que de l'acting et de la boxe entre les deux. Et c'est un photographe d'origine du Mali qui fait beaucoup de reportages sur place, tournés autour du foot. Il faut aller voir son travail, c'est super cool.
Ouais, il documente notamment les maillots de foot.
C'est
vraiment cool. Hazel ?
Moi, je vais parler aussi d'un photographe, c'est Copetto, un photographe hyper talentueux qui se démarque notamment par l'utilisation de la lumière dans ses clichés. Il a un travail hyper cool et de super bonne qualité, il faut aller voir ce qu'il fait.
Ok, merci beaucoup.
Merci à toi.
Est-ce que vous pouvez dire où est-ce qu'on peut trouver votre travail ?
Notre travail, on le trouve principalement sur notre site internet.
Ouais.
Là, en ce moment, on est à la Samaritaine sur le pop-up de Maison Château Rouge. On est aussi dispo en boutique chez Maison Château Rouge. À part ça, on a une collection exclusive qui est au Conran Shop. C'est rue du Bac. Et je pense que c'est ça principalement.
La Teille est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Sidox, Amel, Ziad, Théophile et Blaise. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver dans la barre de description et sur notre site www.lateillepodcast.com. Cet épisode de La Teille a été enregistré dans les locaux de Yard. On les remercie pour leur accueil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou Deezer en tapant La Teille, LAATAY, sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et sur Twitter, @LaTeillePodcast. On se retrouve bientôt, Inch'Allah.